C'est pas pour dire. Une émission de la compagnie La Lune Rousse, présentée par Charles Cécile. Au XXIe siècle, qu'est-ce qui pousse encore les gens à dire ou à écouter des contes, des poèmes, des épopées, des histoires de bonnes femmes? Quand les déesses s'appellent Nintendo et que Midas change votre peau, autant du jet lag, des Mastercard, de la com, de la pub, au XXIe siècle quoi. C'est pas pour dire, mais toutes ces histoires, à quoi ça sert? C'est pas pour dire, une enquête de Charles Cécile au pays des conteurs. I have a dream.
Parce que le monde extérieur, il nous impose des choses auxquelles on n'a pas, on n'a pas le choix des fois. Moi, j'ai un ami, là, il vient de perdre sa femme. Il me disait, je suis devant un mur. Je ne comprends pas ça. C'est une chose incompréhensible, n'empêche qu'elle ne peut pas être changée. C'est la réalité qui vient de lui imposer ça. Alors, à quoi va-t-il faire appel en lui pour se sortir de ça? Qu'est-ce qu'il va réussir à cultiver en lui qui lui fasse accepter ce qu'il savait déjà, mais qu'il a besoin de revisiter à sa façon, et peut-être ses amis vont lui dire des mots, peut-être il va entendre une histoire, peut-être il va voir un ruisseau, peut-être ces choses vont quelque part le conforter dans que sa peine n'est pas que sur lui, mais plus large peut-être. Elle l'humanise.
Salut, c'est Charles Cécile. Alors, comme promis, aujourd'hui, c'est la suite de ma rencontre avec le conteur Pépito Matteo dans le beau parc Ronsard de la ville de Vendôme. Dans l'émission d'aujourd'hui, on parle de choses drôles, quelquefois aussi elles sont sensibles et graves. Est-ce que les contes pourraient nous aider à rendre la réalité plus supportable, par là même, à regarder la réalité plus en face? C'est pas pour dire, suite de l'enquête, en compagnie de Pépito Matteo.
Il y avait un type, il s'appelait Désiré. Seulement Désiré, il portait mal son nom. Lui, Désiré, même avant de naître, on voulait pas de lui. D'ailleurs, il voulait pas sortir du ventre. Il avait fallu l'attraper par les oreilles. Allez hop, dehors, vite à vide lapin. Lui, il avait peur de tout. Il se cachait sous les lits. Au moindre bruit, hop, les oreilles aux aguets. Et quand il entendait ses parents qui faisaient la bête à deux dos au-dessus, ça lui foutait la trouille. Et même quand son père y pratiquait l'insecte avec sa sœur, ça lui faisait peur. Il se sauvait partout. À 16 ans, allez hop, dehors, fous le camp vite à vie. Lâché dans la nature, en pleine période de rite. Lui, il a couru comme un dératé, se cacher dans un foyer. Eh ben, plutôt ardent le foyer. Hein. On a commencé à se moquer de lui. Ben oui, il servait de bouc émissaire, quoi. Alors, face de rat, tu veux pas voir la réalité en face, face de rat. Face de rat, qu'on l'appelait. Un jour, on a même voulu lui faire porter des lunettes à triple foyer pour qu'il voit bien la vie en réalité. Eh ben lui, ça l'a complètement dégoûté. Il a décidé de devenir égoutier pour pure monter à la surface des jours. Eh ben là, dans les égouts, il était bien au chaud. Il entendait les veines des canalisations. Ça faisait comme une respiration. Il avait l'impression d'être à l'intérieur d'un poumon, dans le corps de la terre. Ouais, seulement, on lui faisait faire tout le sale boulot. Allez, hop! Un jour, on l'envoie repêcher un cadavre tout boursouflé dans les égouts. Ben, le cadavre, il a fallu le transvaser dans un sac des PTT. Ben, le sac a pété. Et il y a un truc qui a bougé qui est sorti de dedans. Chef, il y a un serpent des canalisations qui m'est rentré dans la liquette. Oh, dehors, on n'aime pas les farfelus ici, virez! Dehors, virez! Ça, c'était la pire des choses qui pouvaient lui arriver. Alors Désiré, eh ben, il s'est sauvé en courant et il s'est caché dans les égouts, on ne l'a plus retrouvé. Et à partir de ce moment-là, il s'est mis à élever des serpents comme ses enfants. Et il n'est plus remonté, sauf les soirs de pleine lune. Les soirs de pleine lune, il pousse la grosse plaque Pont à Mousson, et ces serpents, il leur fait prendre l'air au clair de lune. Et là, dans le reflet de la lune, ça leur fait des têtes de dragons d'argent. Et ça attire un vieux bonhomme bijoutier à moitié clochard qui trafique dans l'argenterie. Il vient les lui échanger contre de la nourriture qu'il a dans des serviettes en papier. Il paraît d'ailleurs que ce vieux bonhomme, il les revend à un représentant qui boite et qui boit et qui travaille dans une boîte. Mais Désiré, il s'en moque totalement. Lui, la seule chose qui l'intéresse, c'est la voix dont il est tombé amoureux. Une voix qui vient juste d'un soupirail en face, une voix qui chante dans une langue qu'il connaît pas, une voix qui lui donne envie de danser.
Tu as sans doute vu ce film avec le qui se passe dans les camps de concentration, tu sais, où l'Italien là
oui,
réinvente pour son fils un autre camp de concentration, voilà, qui serait plutôt un centre de loisirs.
Enfin, bon,
étonnant et terrible.
Mais dans les camps de concentration, les gens se racontaient de la poésie, ils inventaient des histoires, ils se disaient des recettes de cuisine.
Et de la musique.
Et de la musique.
J'ai eu l'occasion d'écouter de la musique d'un certain Ullmann, qui a composé en camp de concentration, qui a fait là les pièces les plus importantes de sa carrière.
Oui, c'est comment... mince, j'ai un trou là, c'est... Messiaen.
Ah, oui.
Olivier Messiaen. Mm-hmm. Sacrée histoire, ça. Mm-hmm. Olivier Messiaen, c'est un musicien renommé qui a été... s'est retrouvé avec deux, trois musiciens et il a composé, je crois que c'est le Requiem pour le temps présent, ou je sais plus, non, c'est autre chose, ça ressemble à ça. Et ils ont travaillé cette œuvre avec des instruments à moitié cassés. Les Allemands leur ont demandé de jouer en hiver devant 5000 personnes, je crois. Ils ont joué, et ensuite ils l'ont fait enregistrer. Je crois qu'il y en a un qui est mort là-bas en camp.
Quatuor pour la fin du temps, Olivier Messiaen.
J'ai découvert cette œuvre à travers la petite histoire. C'est-à-dire qu'on a fait une... C'est un scoop. On a fait, avec des jeunes du labo de Chevilly-Larue, on a fait un collectage dans une usine de la région parisienne, une usine de papier peint. Et dans cette usine de papier peint, qui a disparu, les papiers Le Roy, qui étaient très connus à l'époque, c'était de la grande qualité. Le patron de cette usine était un peu paternaliste, comme beaucoup de patrons de cette époque. Il voulait faire un peu du social dans son usine. Il y avait donc une dispensaire, il y avait une équipe de football, et il tenait par-dessus tout à ce qu'il y ait une fanfare. Et il n'hésitait pas même à passer des annonces en disant « embauche ouvrier pouvant jouer dans la fanfare. Il y avait un type qui habitait en Tunisie, qui s'appelait Coca, et qui rêvait pour son fils de faire de la musique. Parce que lui, il était un musicien amateur. Il voulait que ses enfants fassent de la musique. Et il est venu de Tunisie se faire embaucher. Le fils a fait partie de l'orchestre, enfin ses enfants ont fait partie de la fanfare, et tout ça, et en même temps ils avaient la maison, ils avaient, enfin, c'était bon. Et ça lui a permis d'inscrire son fils au Conservatoire de Paris, où il est sorti avec un premier prix de violon.
Ah, donc, c'est un ouvrier. Beau parcours ça.
Et comme ils étaient juifs, il est parti en camp de concentration, et il a rencontré Messiaen, et il fait partie du groupe des quatre qui a joué dans le fameux truc de Messiaen. Donc je vous laisse une histoire.
Bon, je sors de chez le médecin légiste. J'ai fait faire un agrandissement. Ah, on commence à y voir plus clair. Isn't it, collègue?
Yes.
Oui, vous me remettez, mon collègue et moi. Ah! Bon, voyons ça d'un peu plus près. Photo. Alors, on voit tout de suite que la photo a été prise le lendemain ou le surlendemain de la noce. Je dirais même dans une villa cossue, sans doute dans le sud. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien oui, on voit très clairement que lui a reçu une lettre. Une lettre écrite par elle, puisqu'elle a encore le stylo à la main. Et je dirais même plus, une lettre de rupture. Pourquoi j'avance ça? Eh bien, regardez. On voit très bien que lui n'est pas rasé, et en plus, il n'a pas enlevé son smoking. Donc, il a découché. D'où la scène de ménage et la rupture. D'ailleurs, on aperçoit sous le smoking, vous voyez là, la naissance d'un maillot de corps. Or, il me semble qu'il était question, dans la première photo, d'un représentant prêt à porter, non? Voilà un détail qui mérite d'être noté. À présent, observons un peu le décor. Regardez les lumières, les couleurs, les tags, comme c'est étrange. Regardez cet objet. Il nous montre très nettement qu'il devait y avoir un orchestre à la noce. Ah, ça devait swinguer dans les chaumières, isn't it?
Yes.
Pourtant, franchement, il y a quelque chose qui ne parle pas. Regardez cette robe de mannequin. C'est une robe en sang séché, vous voyez. On fait penser plutôt à un défilé de mannequins qu'autre chose. De plus, on voit très bien qu'elle cache quelque chose devant elle. Peut-être un enfant illégitime? Ah, on peut le dire sans trop s'avancer. Attendez, ne me dites pas que vous n'avez pas vu ce que je vois. Non, vous me faites marcher. Eh bien, bien sûr, la photo est en couleur. Alors que la première était en noir et blanc, si je ne m'abuse. Alors peut-être qu'on a inventé le procédé couleur entre les deux photos. Ce qui va pouvoir nous permettre de situer l'époque. Du coup, deux questions s'imposent. Les Romains connaissaient-ils le stylo à billes? Et si oui, pourquoi ne l'ont-ils pas commercialisé? Ah, tous ces indices nous montrent très clairement que nous sommes en présence d'un réseau international. Même si un petit cadavre à se mettre sous la dent nous ferait bien du bien. En tout cas, tout cet argent qu'on nous a payé en liquide ne me dit rien qui vaille. Au fait, on fait moite-moite.
Ok.
Je me demande, quant à moi, qui pourrait bien avoir intérêt à nous faire porter le chapeau en dehors du fameux... Qu'est-ce qui se passe encore?
Un rapport.
Encore un rapport? Comme si j'avais que ça à faire, moi, à lire des rapports. En appuyant bien sur les syllabes. Excusez-moi, une affaire importante. Oui, oui, ça vient. Oui, oui, j'arrive, j'arrive. Ça vient, ça vient. Ah oh.
Pépito, tu fais des polars qui n'ont pas d'air?
Oui, mais je ne l'ai pas fait exprès. C'est-à-dire qu'on m'avait invité dans un festival polar. Mmh. Et moi, j'ai dit, vous savez, je n'ai pas beaucoup d'histoires polars. Et la fille m'a dit, ça ne fait rien, on veut t'avoir avec nous cette année. prend des histoires de vie, n'importe qui soit un peu de la vie d'aujourd'hui, tout ça. J'ai commencé à en écrire quelques-unes, j'en avais quatre. Et puis j'en avais une cinquième que je n'arrivais pas à écrire. Et puis je me suis dit, tiens, j'ai un copain musicien, on jouait dans les bars. Il va faire du saxo entre les différents trucs. Et puis cette histoire que je n'arrivais pas à écrire, j'ai décidé de la couper en quatre et d'en mettre un morceau dans chaque histoire, comme un feuilleton. Et d'un seul coup, c'est une histoire de jumelle. C'est une jumelle, on la retrouvait toujours en train de faire une manif et il lui arrivait quelque chose. Et à chaque fois, on croyait que c'était la même, mais ce n'était pas la même. Et à chaque fois, ce n'était pas la même. Donc ça foutait un rat. Et du coup...
Ça foutait un rat.
Un rat dans la tête. C'est, je vois une expression qui veut dire, là, ça met le bazar.
Ça fait le bazar.
Et je me suis dit, mais je vais tout systématiser, ça c'est mon côté oulipien, je vais tout mettre en quatre. Puisque j'ai quatre histoires avec une histoire coupée en quatre, je vais prendre 16 personnages reliés 4 par 4. Je vais prendre 4 infirmités, 4 animaux, 4 enquêtes avec 4 assassins, mais il n'y a pas de victimes. Et c'est devenu donc une enquête sur les mots.
Ainsi Dieu. Si Dieu n'insistait pas, il faudrait l'éventer. Dans la vie, on ne fait pas ce qu'on veut, disait mon père.
Dans la vie, on ne fait pas ce qu'on veut, disait mon père.
Dans la vie, disait mon père, on ne fait pas ce qu'on veut.
On ne fait pas ce qu'on veut, disait mon père, dans la vie.
Ce qu'on veut, disait mon père, dans la vie, on ne le fait pas.
Dans la vie, on ne le fait pas.
On ne fait pas ce qu'on veut, disait mon vieux, dans la vie. Ce qu'on vit dans la vie, on ne le fait pas, c'est mon avis. Dans le fait, c'est la vie con qu'on ne veut pas. Dans l'envie, on fait vœu que la vie, c'est la fête. Alors si c'est ça la vie qu'on veut, alors si c'est ça la vie, soyons sérieux, papa. Celui qui, en partant à zéro, n'est arrivé à rien, n'a de merci à dire à personne.
Alors, il semble que tu sois abonné un peu aussi aux lieux qui sont un peu cachés. Les prisons, les hôpitaux...
Les maisons de retraite.
Et pourquoi ça, mon cher Pépito ?
Là, c'est tout simplement parce que dans les diverses choses que j'ai faites au niveau du conte, à un moment donné, j'ai toujours envie de raconter des histoires qui partent du réel. Enfin, très souvent, pas toujours. Et j'avais accompagné quelqu'un aux urgences à l'hôpital. Et en attendant une bonne partie de la nuit, je me suis dit, mais là, il y a des histoires invraisemblables, là. Les gens vous racontent ce qui leur est arrivé. Il y en a qui ne vous le racontent pas, mais vous vous demandez ce qui leur... Vous supputez que cette femme qui a un œil au beurre noir, qu'est-ce qui s'est passé? Et du coup, c'est comme au théâtre, les urgences. On est une unité de temps, c'est l'unité classique, unité d'action, unité de lieu. Et il se passe toujours quelque chose. Il y a quelqu'un qui rentre sur un brancard. Il y a un cri, il y en a un qui gueule dans un coin. Il y en a un qui s'endort. Vous vous levez, vous allez au café. Après, vous vous dites, mais finalement, c'est peut-être plus grave que ce que je pense, ce que j'ai. Ça commence à... Donc, il y a un cinéma entre le rêve et le réel. Et je me suis dit, je vais pousser le bouchon, je vais faire un spectacle là-dessus, mais je vais interviewer les infirmières. Puis je vais passer
avant, tu veux dire, pour le, avant de le créer.
Avant de le créer. Ouais. Et donc j'ai récolté un tas d'histoires et j'ai passé quelques nuits aux urgences pour voir comment ça se passe avec le personnel. Et donc j'ai écrit une chose qui est un petit peu farfelue puisque mon personnage principal, c'est le public, c'est vous. Je vais vous raconter votre histoire. Vous arrivez un jour aux urgences, vous avez un panari. Ça fait un peu ridicule d'avoir un panari, même si c'est dangereux, parce qu'on peut en mourir quand même.
Ça peut faire si ça se propage. Oui.
Et donc, et puis ça fait le doigt en l'air, comme le conteur qui a envie de dire « je peux raconter une histoire ?» Je vous demande la permission. Ou alors je parle au nom des dieux. Ou alors attention, taisez-vous. Enfin, je me suis dit, ça serait une bonne manière de, bon, au niveau de la forme, de renverser l'affaire, c'est-à-dire si je mets le public à ma place... Je joue vous, mettez-vous à ma place, je me mets à la vôtre. Ça permet de jouer, de dédramatiser, parce que je vous montre votre ridicule avec votre panari. Ça permet de déjouer la gravité et en même temps de pouvoir parler de tout.
Minuit et demi. Dans la salle d'attente, rien n'a bougé. Tout le monde est à son poste. Il y a toujours le ficus à l'entrée qui monte la garde. Le papillon qui joue au ping-pong à la vie à la mort. Le téléphone qui fait ses gammes. Je ne suis pas un cheval. La neige sur le toit. Le Uber noir, le cycliste, le box. Rien n'a bougé. Sur le chemin des admissions, vous êtes intercepté par la cerise. Celui qui sourit à tout le monde. Oui, on l'appelle la cerise parce que c'est la cerise sur le gâteau, vu qu'il n'a rien à soigner ou alors un sparadrap enlevé. Mais enfin, il est là presque tous les soirs parce que, premièrement, monsieur ou madame, avec vous, il ne sait pas trop à quoi s'en tenir. Ici, aux urgences, il savent y faire. Donc, vaut mieux se trouver sur place pour si au cas où. Deuxièmement, on paye pas tout de suite et c'est quand même moins cher que chez le médecin de famille. Surtout quand on n'en a pas. Troisièmement, c'est comme au bistrot, il fait chaud, on voit défiler du monde. Quatrièmement, quand on est quasi insomniaque comme moi, on peut récolter des histoires et en raconter pour peu qu'on change d'établissement souvent. Dites donc, il est pas beau votre doigt, hein? Remarquez, cinquièmement, je préfère venir ici, c'est quand même plus près de chez moi. Ah, en parlant d'histoire, c'est le type dans une ruelle, un soir de réveillon. Il en est là dans ses élucubrations, mais vous, la seule chose que vous avez entendue, c'est cette phrase assassine. « Il est quand même pas beau, votre doigt !»« C'est vrai, dites donc. Il est encore doublé de volume. » Et puis ça tourne là-dedans comme le bouchon d'une cocotte minute. Ça danse le flamenco en tapant du pied, ça va finir par éclater. Il a peut-être raison. C'est peut-être pas si rien, Panari, au fond. Ben oui, ça fait comme une flèche, mais tirée à l'envers. Ça peut remonter jusqu'au cœur. Cupidon, mais sans la libido. Vous qui avez jamais écouté votre corps, il a peut-être décidé de se venger. Il va vous faire payer la facture, vous montrer de quel bois il chauffe. Il va remonter jusqu'à la cible, percuter les erreurs du passé. Ça peut même remonter à plusieurs générations. Un arrière-arrière-grand-père qui aurait caché un vieux secret de famille, qui ressurgira un siècle plus tard en septicémie infectieuse délirante. Là, vous sentez déjà les globules blancs qui déferlent en rafting sur vos vaisseaux en décoction 9CH. Les staphylocoques jouent du tam-tam sur vos tempes. Vous êtes cerné de toutes parts par la tribune et oulala, ça fait bobo. Docteur Zorro, s'il vous plaît, sauvez-moi. Vous n'êtes pas docteur. Excusez-moi. Vous apprenez que vous devez délivrer Scanner, la fille d'une bande rivale qui a été enlevée par des pirates. Pourquoi vous? Depuis son PC, le chef des pirates envoie des virus sur l'île de la souris. La fille a perdu sa puce, quel dossier! Oui, écoutez, je vais vous demander de vous calmer un peu, là, parce que je vous sens un peu surmené, là, après tout ce qui vous est arrivé. Non, rassurez-vous, vous êtes tout simplement en train de suivre une conversation croisée en stéréo entre celui que vous aviez pris pour un médecin et qui est en train de signaler qu'il a passé un scanner à cause d'un virus à la fille des admissions, qui, elle, lui répond que son PC a été piraté et qu'elle est justement en train de rechercher le virus qui va lui permettre de débloquer son scanner pour atteindre son disque dur. Ce à quoi l'homme lui rétorque que son disque dorsal à lui a été écrasé à cause d'une fausse manœuvre. Elle lui répond que de toute façon il s'agit d'un modem dépassé, ce qui fait dire à l'homme complètement abattu qu'il n'est ni moderne ni dépassé, et que si on veut lui faire écran, il va faire appel à la police. Oh là là, le ton monte, elle commence à déconnecter. Ils vont se taper dessus, et là, ils se retournent vers vous pour que vous preniez parti. Vous aimez pas les conflits, vous, hein? Vous êtes comme moi. Vous préférez laisser pourrir la situation. C'est peut-être toutes vos lâchetés qui remontent. Bon, en tout cas, vous croyez être tiré d'affaire, hein? Eh ben, pas du tout. Parce que là, vous êtes pris entre deux feux. Arrive un type qui se prend la semelle dans le paillasson, qui effectue une sorte de triple saut périlleux arrière et qui vous atterrit dans les bras en pleine salle d'attente. Excusez-moi, monsieur. Et alors là, je ne résiste pas à l'envie de vous décrire le spécimen parce qu'il est quand même assez rare. Le type est plutôt petit, engoncé d'une sorte de cabi qu'il boudine. Il a les épaules en bouteille de Perrier, les joues qui s'affaissent, la bouche qui bâille, les yeux qui sortent de la tête comme un lapin langoureux, toutes les peines du monde réunies en une seule créature, le mal d'amour à cœur ouvert mais la vie oubliée de le recoudre, le syndrome de la Saint-Valentin, un ange déchu, et pour couronner le tout, le gars a un bouquet de soucis à la main. Alors là, trop, c'est trop. Vous sentez monter en vous une envie de rire, mais alors un rire nerveux. Voyez comme vous êtes, hein, le malheur des autres. Un œil au bal, l'autre au cimetière, comme disait ma grand-mère. Et là, vous essayez de sauver la face. Vous refouillez dans votre poche, vous retombez sur le morceau de journal. Oui, le journal du SDF, le cow-boy, les pompiers, le brancard, la montre, le journal, quoi. Et vous vous cachez derrière.
Urgence, un spectacle de Pepito Matteo, édité par L'Autre Label. Qu'est-ce que tu as voulu dire à travers ce spectacle qui s'appelle Urgence ?
J'ai voulu dire qu'on a tendance à ne pas voir les urgences qui sont autour de nous. Et si on peut se... Mais quand on est obligé de mettre
son... Cache derrière son doigt, c'est ça ?
Oui, c'est ça. et quand on est obligé de regarder, au fond, ça nous humanise parce qu'on s'aperçoit qu'en s'intéressant aux histoires des autres, d'une part, ça dédramatise un peu, ça rend les choses relatives, ça enlève les stéréotypes et ça nous met dans quelque chose de plus... généreux et comment dire, on peut se.
S'ouvrir.
De la compassion.
Oui, s'ouvrir au monde.
Voilà. Et du coup, on ne regarde plus les gens qui souffrent de la même façon. On va voir un gars dans la rue qui passe, peut-être qu'on a envie de le regarder autrement. Parce qu'on a appris à travers ce qu'on a vécu, sur ce réel, des choses qui font que vaudrait mieux fermer des fois sa gueule et puis avoir un peu plus de regard sur les autres. Des fois, on est amené à juger, on va dire, ce que c'est quoi ce SDF, il n'a pas voulu bosser, il n'a pas... En réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça.
Pour toi, le mot fraternité, ça compte ?
Ben oui, c'est dans ce sens où, justement, les contes nous ramènent à cette question de quelque chose qui est universel, qui compte. On n'est pas d'un pays avec des frontières, on peut être proche de quelqu'un qui est très très loin. Et c'est ça qu'il faudrait essayer d'entretenir en soi. C'est on a toujours l'intérêt de rencontrer un étranger. Parce qu'il peut nous apporter des choses qu'on ne savait pas de nous. Il peut nous apprendre des choses qu'on ne savait pas. Il peut nous... Il peut nous amener quelque part... là où on n'aurait jamais pensé aller. Enfin, on peut répertorier un tas de choses qui font que on a plus de chance à essayer de rencontrer des gens qui ne nous ressemblent pas. Et ce qui n'est pas le cas. Parce qu'aujourd'hui, on est un peu chacun dans sa boîte, de plus en plus, donc il faudrait essayer de lutter pour ça. Mais moi, je n'ai pas de recette. Hein. Je dis simplement que les mots servent à se rencontrer.
C'est déjà pas mal. C'est déjà quelque chose d'important. Thank you. Bill Watrous, Bird Song. Alors certains marchent beaucoup, la nuit comme le jour, et laissent venir les images mentales à eux. D'autres se mettent devant...
Il y a beaucoup d'insomniaques.
Ah oui, beaucoup, beaucoup. Oh, ben, beaucoup de grands malades. Et d'autres sont devant leurs feuilles, d'autres ceci, d'autres cela. Pépito Matteo, comment t'es, toi, dans ton laboratoire de fabrication des contes et de structuration de l'imaginaire, d'organisation de toutes ces images ?
Ben moi, je suis donc un rêveur, mais j'ai quand même le défaut, et notamment pour répondre à ta question d'avant, une fois que j'ai fait les urgences, je me suis dit, je vais travailler sur le collectage dans les stages, et puis moi, je vais même aller, on m'a proposé d'aller travailler à Fresnes en prison, et puis je me suis dit, mais poussons le bouchon, donc je suis allé en usine, je suis allé dans les maisons de retraite. Puis maintenant, là, je n'ai pas envie de le faire maintenant. J'ai passé ça. Parce que c'est toujours intéressant, mais ça nous bloque un peu le réel. Donc, moi, je peux inventer des histoires en partant du réel, en trouvant du matériau réel, mais après, il faut trouver l'architecture, et c'est très long. Il faut écrire tous ces petits personnages, ces bouts d'histoire, on les colle sur un mur, on colle plein de papiers, puis on se dit, tiens, quelle est la correspondance? Comment on va faire pour rejoindre tout ça? Donc c'est un système particulier.
Tu le fais concrètement, ça, oui, le coup de l'agrafer au mur.
Oui. Et puis je fais des couleurs, je fais des ronds, des carrés, tout ça. Puis j'essaie de voir comment ça peut se correspondre. Tiens, ce personnage, il a une histoire bien carrée, mais lui, il n'est pas carré, le personnage. Alors que là, j'en ai un qui est plus intéressant. Il pourrait peut-être être dans l'histoire d'ici. Ou ces deux histoires, tiennent, ils n'ont pas de fin. Il y en a une qui n'a pas de début. On pourrait peut-être les mettre ensemble. Je fais du trafic. Donc ça demande un truc particulier. Il y a les histoires où je me mets des contraintes, comme je disais tout à l'heure. Là, j'ai fait un spectacle qui vient d'être créé, qui s'appelle « Sept contraintes d'écriture », que j'ai donné à sept metteurs en scène avec sept contraintes de mise en scène. Donc, c'est infernal. Mais ça a l'avantage d'être... on avance et on retrouve le réel à partir de quelque chose qui est parti de rien. Il y a des histoires que je fais en rêvant, et je le fais de plus en plus souvent, parce qu'il me semble que le rêve, c'est bien pour... laisser venir des choses qui sont pas finies, qui sont il y a Cocteau qui dit ça, il dit dès que je me mets à la feuille je perds cette globalité que j'avais à l'oral ou dans le rêve, et je crois assez à ça.
Et tu arrives à réattraper les images, oui, du rêve,
oui, si j'ai le fil, j'ai un fil simple et je vois assez les images qui se mettent, donc j'essaye de... Et puis quand l'histoire ne tient pas assez debout, je m'assois pour l'écrire. Mais je fais un compromis entre l'oral et l'écrit, mais j'essaye de plus en plus de rêver la structure avant. Parce que ça me permet, comment dire, très vite de savoir où je vais. Ça me libère. Avant, je ne le faisais pas, je m'obligeais à écrire... Et puis, quand on écrit, ben, il y a des moments, les mots disent trop les choses, on perd l'essentiel. Alors, des fois, on trouve des choses à l'écrit qu'on ne trouve pas à l'oral, et vice-versa. Donc, je fais un peu un alliage des deux. Mais mon avant-dernier spectacle, il s'appelle « Sans les mains et en danseuse », je l'ai rêvé. C'est-à-dire, non, je me suis souvenu d'une histoire réelle, où j'étais parti en vélo chez mes parents pour aller à Paris, avec toutes mes affaires d'enfance, et puis comme c'était trop lourd de pédaler, j'ai jeté les... Et je suis arrivé à Paris, j'ai avec mon vélo, et on me l'a volé. Et je me suis dit, tiens, ça fait comme si j'avais voulu me faire un chemin initiatique pour quitter l'enfance. Et j'ai lu le Siddhartha de Hermann Hesse, qui est un peu un truc initiatique. Je me suis dit, voilà, ça c'est un chevalier, mais il n'est pas en vélo, à cheval, il est en vélo. Et ce chevalier, il a un chemin pour sortir de l'enfance, c'est moi. Mais il a sept mouvements. Et dans sept mouvements, il a sept images. Là, je suis obsédé par le chiffre 7. Donc au départ, je l'ai construit comme ça, mais sans... Je mettais un mot sur une feuille. Première image, sortir de la ville. Non, sortir du jardin. De l'enfance. Alors, première image, ma mère. Deuxième image, un âne. Troisième... Et puis là, ça me permet d'avoir mon cheminement.
Mon voyage à moi commence dans un jardin. C'est le jardin de mon enfance. Et je dois m'échapper. Alors c'est très tôt, à l'aube. C'est même avant l'aube.
D'ailleurs, ça se passe dans l'Aube, en Champagne. C'est un paysage à corbeaux, mais les corbeaux, on les voit pas puisqu'il fait encore nuit. Je dois traverser le jardin sans écraser les dahlias de la cousine de ma mère et les glaïeuls de la belle-sœur de mon père, c'est-à-dire ma tante. Alors c'est la champagne pouilleuse, hein, il faut s'imaginer. C'est très difficile de s'en extraire. À chaque pas qu'on fait, on emporte 2 kilos de terre grasse à betterave sous ses pieds. C'est épuisant. Et là, je suis à peu près à la moitié du jardin lorsque, dans une sorte de halo de clarté laissé par la lune s'en allant, j'aime assez bien cette phrase, je vois arriver ma mère sur un poney. Le poney a de chaque côté des flancs des paniers remplis de victuailles et ma mère me dit « On ne manquera de rien, j'ai pensé à tout. » Et là, je réalise que je n'ai absolument pas envie de partir avec ma mère. Donc j'essaye d'accélérer, seulement ça patine. En plus, j'essaye d'attraper la petite poignée de porte du bout du jardin, mais elle est rouillée, j'arrive pas à sortir, ça commence à m'énerver. D'autant plus que maintenant le poney se fourre dans mes jambes comme un chat. C'est vraiment agaçant, j'essaye de le repousser, mais il a le museau gluant, donc j'ai pas de prise. Au bout d'un moment, ça m'agace, je le tire par la queue pour le faire partir en arrière, sauf que la queue me reste entre les mains. Et par un effet ressort qui se produit, le poney se met à décoller avec ma mère dessus et ils se mettent à tournoyer au-dessus de ma tête dans le ciel et ma mère me crie « Si tu savais ce que j'endure avec toi, tu seras bien débarrassé quand je serai plus là !» Donc j'ai fait ça, mais donc je l'ai rêvé au départ. Je l'ai noté et puis je n'ai pas écrit. J'ai essayé de voir ce qui se passait avec chaque moment. Et maintenant, il y a des séquences qui ont moins de 7, il y a des trucs qui sont tombés, il y a des trucs qui se sont renforcés. Mais c'est à force de le raconter. Mais je l'ai trouvé en rêvant. Et ça, c'est bien.
Tu rôdes des choses en racontant. Ouais. Tu peaufines.
Ah ben, je marche pour... Voilà.
Tu te les racontes pour toi, ouais, déjà, pour commencer.
J'aime pas quand, justement, l'histoire est trop difficile à apprendre. Ouais. Moi, des fois, j'écris des histoires qui jouent sur les mots. Et comme je l'ai écrit, ça veut dire qu'il faut que je me le mette dans le cigare. Et moi, je préfère le trouver à l'oral. Quitte à me dire, ah ça, il faut que je l'apprenne. Mais ce petit passage-là, il faut que je l'apprenne, mais le laisser venir. J'ai voulu trop bien faire pendant longtemps, en essayant d'arrêter des textes, mais je m'aperçois qu'ils continuent d'évoluer. Alors,
La spontanéité, ça s'entend, voilà. Ça s'apprécie.
Absolument. Hein. Et c'est ça qui, justement, m'a libéré depuis 3 ans, parce que je fais de l'improvisation avec un groupe de fous furieux qui s'appelle la Taverne de Munchausen. Et on est des personnages du XVIIIe siècle, ou en cow-boy, ou des super-héros. Et on nous donne des sujets. On dit, marquis de... Il paraît que vous avez repoussé les avances de la reine d'Angleterre. On est au XVIIIe siècle... à cause d'un radis. Alors vous
buvez de la bière pendant ce temps-là?
Oui, tout à fait. On boit continuellement.
Le nom de taverne, oui.
Ouais. On boit en joutant. Et donc c'est les joutes verbales. On dit oui, bien sûr, tout à fait. Et je vais vous expliquer ce qui s'est passé. J'étais à l'époque vendeur de chapeaux. Mais les autres nous mettent des bâtons dans les roues. Ils disent, mais Marquis, vous étiez en prison à l'époque. Vous étiez enfermé à la Bastille. Et vous ne pouvez pas dire non, parce qu'en plus, on est payé en écus. Et le dernier est guillotiné, donc il faut avoir le plus d'écu possible. Il y a des champions, mais on a une équipe de base et des remplaçants. Et donc,
Je sais bien que ce n'est pas une contrainte et que vous pouvez vous remplacer tranquille.
Oui, voilà. C'est bien. Mais le chef est toujours le même. C'est un gars qui s'appelle Gwenadu. C'est lui qui a inventé le concept. Et il est un peu magicien mentaliste. Et lui, il est très fort parce qu'il organise le jeu. Il accueille les gens en jouant du clavecin. Nous, on arrive avec des perruques, des costumes du 18e, très beaux.
Et là, je suis sûr que tu t'amuses à fond.
Je m'amuse et en même temps, des fois, tu te mettrais dans un trou de souris parce que tellement t'es ridicule. Ah ouais. Et il faut accepter ça. C'est pour ça que ça me sert beaucoup dans les contes parce que j'accepte d'être ridicule maintenant. C'est-à-dire des fois d'être vide.
Et tu peux l'utiliser aussi, le fait d'être ridicule.
Oui,
tu peux
accepter le silence.
Tout simplement.
Voilà. Moi, avant, quand j'étais paniqué, je parle. Or, c'est l'inverse qu'il faut faire. Il faut laisser la parole aux gens. Et puis dire, tiens, et si je pouvais changer de ton, là? Et vous vous étonnez, je vous regarde, c'est un peu du clown. Alors, moi, ça me donne une autre envie, c'est de vous raconter quelque chose d'autre qui n'était pas prévu. Ou... Ça donne un jeu, une disponibilité que le public sent comme un moment exceptionnel. Et le conteur, comme le clown, peut se permettre ça. Mais quand on n'a pas trop de bouteilles et qu'on est un peu nerveux, comme je le suis, on a tendance à paniquer, donc à aller un peu vite en besogne. Et c'est l'inverse. L'improvisation, les gens rient parce qu'ils vous voient patiner. Tu dis oui, bien sûr, attendez, je ne me souviens plus très bien. Et l'autre, il dit si, souvenez-vous, vous aviez des bottes en castor. Oui, c'est vrai, j'avais des bottes en castor. J'aimais beaucoup la chasse au castor. Alors après, une fois que vous avez dit ça, vous êtes obligé d'entériner. Bien sûr. Les paroles ne sont pas gratuites. Dans une impro, si on dit par exemple, racontez-nous comment vous avez été invité par le roi de Suède pour son mariage. Alors, la première chose que vous dites déjà vous engage. Si vous dites, oui, je t'ai invité parce que je faisais un plat qu'adorait le roi de Suède. Alors ça y est, donc vous êtes cuisinier, vous inventez des plats. Oui, et vous pouvez nous expliquer, ben, c'est un plat espagnol en fait, parce que mes origines, c'est... Ça y est, tout ce que tu dis, c'est comme si tu regardais les pas que tu fais en reculant.
Tout obligé, voilà.
Et c'est ça qui est fabuleux, parce que du coup, on ne peut plus tricher, puisqu'on a déjà dit des choses... qui nous... C'est comme si dans la vie, on disait, quelqu'un nous dit, vous êtes quoi, et vous ne le connaissez pas, vous dites, je suis médecin.
C'est comme une randonnée en compte, il ne faut rien oublier après.
Ouais,
hein,
c'est ça. Voilà. Tu sais, les menteurs professionnels. Le mec est...
T'es menteur, toi? Est-ce que t'es menteur? Est-ce que tu racontes des fariboulettes?
J'essaye de ne pas mentir dans le réel.
D'accord.
Ouais. Voilà, je n'ai pas menti là, je crois. J'essaye de ne pas mentir dans le réel, ou tout au moins pour m'amuser de temps en temps, parce que justement, dans les contes, on peut dire tout ce qu'on veut. Alors autant le garder pour la fiction. J'aime pas trop les poissons d'avril, par exemple. Il y a des gens, ils sont forts, ils vous amènent tellement loin qu'au bout d'un moment, c'est presque décevant, où il y a quelque chose qui dit « Merde, je me suis fait avoir, c'est bête ça ». Il s'est moqué un peu de moi qui était naïf, puisqu'on n'avait pas le code. Donc je trouve des fois rigolo un poisson d'avril, mais quand il est trop poussé, ou des gens font une blague autour d'une autre personne, en lui faisant croire que... Lui, il n'a pas le moyen de se défendre. Donc
ça dépend.
C'est ça.
Alors que la fragilité, c'est l'artiste qui doit l'endosser, non?
Voilà, c'est ça, on peut dire ça. C'est une fragilité...
Le risque, quoi.
Oui, une fragilité qui a beaucoup de chance, parce qu'elle donne de la... C'est fou, hein, tout ce qu'on dit, des fois, a plus d'importance que ce qu'on pensait. Il y a un malentendu créatif, c'est ça qui est fabuleux. C'est-à-dire, on dit une chose et on ne sait pas que quelqu'un l'entend autrement. Ou qu'il l'entend dans un autre sens, ou qu'il vient vous dire à la fin, ce que vous avez dit est très fort, vous avez dit ceci. Et moi, ça m'a fait penser dans ma vie que j'ai dit ça, moi. Je ne m'étais pas rendu compte que j'avais dit ça. Ou tout au moins, je ne savais pas qu'on pouvait le penser dans ce sens.
Il commence à raisonner.
Voilà. Et donc, c'est un malentendu qu'il faut accepter, comme je ne sais plus qui disait, la parole est à la moitié à ceux qui parlent et à ceux qui écoutent. Donc, il faut accepter que l'autre, on n'est pas des gourous, c'est l'inverse.
Les super et superbes filles de Zap Mama. Oh, baby, so be all, que tu nous sois. Oh, baby, so be all, que tu nous sois.
L'humanité court trop vite à la recherche d'un monde qu'elle veut sans doute meilleur. Pourtant, notre terre a gardé son rythme. Elle aussi a un cœur. Pourquoi ne pas l'écouter au lieu de l'étouffer? Plutôt que de courir après des leurs, arrêtons un instant et écoutons.
Toujours en quête de compte avec Pepito Matteo. Dis-moi, travailles-tu avec d'autres artistes? Alors, donc, tu nous parles de la taverne de Münchhausen,
oui.
Voilà, qui te sert à la fois de cours de récréation, mais aussi certainement pour nourrir ton imaginaire, hein, finalement.
Oui, voilà. Oui, oui.
Est-ce que, par exemple, tu travailles avec des musiciens? Est-ce que tu travailles avec d'autres conteurs? Est-ce que tu fais équipe?
J'ai fait un petit peu avec des musiciens. Je l'ai fait avec plusieurs conteurs. Quand on a fait le travail sur les usines, j'avais embauché 4 jeunes conteurs avec moi. On était 5 à raconter ensemble. C'est des choses qui m'intéressent. Le théâtre-récit, on pourrait dire. Puisque quand il y en a un qui raconte, qu'est-ce que font les autres? Ils restent visibles pour le public. Oui. Donc, il faut bien créer quelque chose avec nos corps. Soit on n'est pas d'accord avec ce que raconte l'autre, soit au contraire on l'illustre, soit on crée autre chose. Il y a 2 images en même temps. Donc ça offre plein de possibilités qui m'intéressent. Avec la musique, c'est pareil. La musique peut accompagner, mais elle peut jouer autre chose. Elle peut faire des ruptures dans le récit. Elle peut prolonger tout ça. Moi, j'aime bien les choses comme ça, et notamment les expériences avec... Là, par exemple, je vais faire une expérience à un moment donné. J'ai lancé ça avec un gars. Il va faire des dessins. Donc, il y a des fois, je vais raconter, il va dessiner ce que je raconte. Quelquefois, c'est lui qui va commencer à dessiner, je vais raconter. Ou quelquefois, on va jouer, il raconte, il commence à dessiner, je commence à raconter. Et en fonction de ce que je raconte, il refait un autre dessin, etc. Mais il y a un musicien aussi qui va se mêler à l'affaire. Donc, on va essayer de jouer à l'écoute des 3.
Sans préparation, c'est-à-dire vous y allez carrément...
Voilà. On va vraiment se donner simplement par exemple, 7 attaques. Première attaque, par exemple, c'est moi qui raconte. Et lui, il illustre. On sait que c'est moi qui mène.
un peu d'ordre, mais en tout cas, oui, tout voilà. Est autrement. Vous le faites vraiment en impro, quoi. Une performance.
Finalement. Voilà. Deuxième attaque, c'est quelqu'un dans le public qui lance un thème, par exemple. D'accord. Qui commence ? C'est le musicien ? C'est le dessinateur ? C'est moi ? On ne sait pas. On va essayer de trouver comme ça des pôles. Alors ça, c'est des choses qui m'intéressent. Ou raconter, on a raconté avec Abby Patrix, avec des films muets par exemple. On faisait les dialogues.
Quelle que soit la longueur du dragon, il a toujours du feu. Oui, vous me remettez ? Ah ! Oui, je suis seul, mon collègue a disparu. Mystère. Bon, en tout cas, j'ai toutes les cartes en main. Je peux abattre mon jeu. Jugez-en plutôt. Le mystérieux X d'IDD, alias Tonton de Baden-Baden, a décidé de faire réformer tout le prêt-à-porter mondial et de faire couler les boîtes concurrentes. Qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, tout simplement, il engage un représentant qui boite pour pas se faire doubler. Celui-ci est censé recruter un peintre dont les œuvres serviront de modèle unique à la marque Snake Dragon Serpent. Bien. L'équipe est constituée de Tata du Canada, une organisatrice des ventes internationales, qui se fait épauler par un bijoutier, un peu clochard qui trafique dans l'argenterie, et un poète underground qui est à moitié égoutier. Tout est clair. Ils ouvrent des ateliers clandestins, conduits de main de maître par une certaine Limang, une cafardeuse clandée. Vous voyez ce que je veux dire. Tout marche comme sur des roulettes. Isn't it? Sauf que, le faux commissaire Lulu, ancien cadre viré de la boîte et champion de la filature, a décidé de se venger. Écoutez-moi bien. C'est lui qui engage le hasard du mariage entre le fameux Too Much et une infirmière infirme qui aurait eu un enfant illégitime avec le peintre. Le tout sous le couvert d'un problème d'impair. Vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Sauf que. La future mariée, deux jours avant le mariage, rencontre au cours d'une manifestation une amie à qui elle propose un boulot aux Beaux-Arts sans savoir qu'elle la confond avec sa sœur jumelle amnésique. Le tout arrive aux oreilles de Lulu. Il sent que l'affaire lui échappe. Il panique. Qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, tout simplement, il engage un détective privé qui se fait passer pour une vieille tante de Saint-Jean-Pied-de-Port. Celle-ci met sur le coup des voisins qui ont opinion sur rue. Elle, c'est Louis. Louis, c'est Claire. OK ? Ces deux-là ont un perroquet Coco. Assez bavard, d'ailleurs, qui révèle le tout à une postière venue faire signer une lettre d'amour recommandée en se trompant d'adresse. Or, et c'est là le clou de l'affaire, celle-ci joue au ping-pong tous les vendredis matins avec l'autre jumelle, sans savoir qu'elle n'est pas amnésique. Et elle lui révèle le tout entre deux sets. X d'IDD alias Tonton de Baden-Baden a le moral à zéro. Il décide de frapper un grand coup et de supprimer les desserts à la noce. Seulement là, la mariée en profite pour s'échapper avec un tromboniste célèbre. Et Too Much reste seul. Il sent le coup fourré. Qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, tout simplement, il décide au dernier moment de s'extraire de la photo avec pour objectif de faire chanter toute la noce. Or, ce qu'il ne sait pas, c'est que Lulu chante faux. Au deuxième couplet, il fait un canard qui jette un froid du même nom et tout part en eau de boudin. Voilà. Maintenant, l'affaire est classée. Limpide, unanime. Il n'y a qu'une seule chose qui me turlupine. Pourquoi m'a-t-on chargé de l'enquête puisque je ne suis pas mélomane ? Ah, toute cette affaire me touche, me blouche, me douche, la bouche, la couche, la... Oh, vous avez vu, j'arrête pas de buter sur les morts, sur les mots. C'est l'émotion, je me sens sûr. Hein? Non, je me sens pas sûr. Comment ? Buter ? J'ai dit buter ? Non, mais faut faire attention à ce qu'on dit, parce que buter... Mais buter, ça veut dire tuer, donc il y a bien eu un crème et deux croissants, hein ? Non, je veux dire, il y a bien eu un crime, c'est passionnant. Passionnel ? Un crime passionnel ? Je vois tout de suite la scène à coups de sardine dans la canadienne. Mais alors, est-ce qu'on a retrouvé le corps ? Mais oui, souvenez-vous, le corps dans le maillot du père. Attendez, le père, ok ? En maillot de corps avec la canadienne. Mais alors, pourquoi la belle-mère est-elle restée les mots croisés pendant ce temps-là ? En 8 lettres, il voit la vie en rouge.
l'assassin. L'assassin, sur son sein, suçait son sang sans cesse. Donc, il y a bien eu un crime. Or, on dit que l'assassin revient toujours sur les traces de son histoire. Ben justement, qu'est-ce que je fais là, tout seul, au bord de la Seine? Vous pensez que je devrais m'arrêter? Non, attendez, pas m'arrêter de parler, non, m'arrêter moi-même. Ah, je vois tout de suite, le commissaire arriverait. Vous allez parler, mon vieux, je suis commissaire à la Cour des comptes. Moi, je demanderai à raconter une dernière histoire. Voilà, ces deux types dans un camping, il y en a un qui a une serviette autour du cou. Alors l'autre, il lui dit, t'as pris une douche? Oh, il dit, t'as pris une douche? Et l'autre, il répond, pourquoi?
Bon, Pépito, écoute notre petite conversation dans le parc de Ronsard va maintenant Ronsard toucher à sa
nous
fin.
Nous a écouté.
Voilà, des beaux projets sans doute pour toi.
Je ne sais pas ce qu'il en a pensé, Ronsard, de tout ça.
Mais je ne sais pas, il est dans un coin sans doute.
Avec Rodin.
Ouais, ouais, c'est tout ça, c'est merveilleux d'avoir la possibilité de parler de soi et de parler de ce qu'on aime. Parce que c'est pas. Je crois que moi j'ai toujours cherché au fond en m'évadant avec la parole parce que je voulais m'évader du réel, mais le réel m'a ramené. Cette évasion m'a ramené dans la réalité pour trouver ma place en tant que personne dans la société. Et je la mesure toujours aujourd'hui comme quelque chose qui me réunit et qui me met en possible adéquation avec le monde qui m'entoure. Ça veut dire que je cherchais le sens en essayant d'ouvrir des portes que je ne trouvais pas. Et le jour où j'ai trouvé la porte qui m'a permis d'aller là où je sentais que c'était bien pour moi, j'ai continué à ouvrir des portes et je continue à en ouvrir en me disant que je suis dans le bon chemin pour moi. Mais ce chemin est infini. Et on ne sait pas qu'est-ce qui va être et qu'est-ce qu'on va rencontrer. On peut encore évoluer, recomprendre plein de choses. Mais en tout cas, mon métier m'a permis de comprendre plein de choses sur le monde, sur moi-même, sur les autres, et de me donner de la joie d'inventer, pour chercher, à continuer de savoir qui je suis, au fond.
Dit-il avec ses yeux malicieux. Les auditeurs ne le voient pas, mais Pépito Matteo a les yeux malicieux. Pépito, merci beaucoup.
Merci à toi.
Voilà, et puis à une autre fois. Tout à fait.
Merci Charles.
Pépito Matteo, écrivain, écriveur, rêveur de contes et tourneur fraiseur de réalité, vous pourrez trouver ses disques chez l'autre label. En attendant le plaisir de voyager avec vous à nouveau, eh bien, que le grand cric vous croque.
Était comme chaque mois produite et réalisée par la compagnie La Lune Rousse sur une idée de Anne-Gaëlle Goduchot et présentée par Charles Cécile.